Vous êtes sur RTL.
Alexandre de Saint-Aignan.
RTL Grand Soir.
Et voici la réponse du gouvernement. Après les violences de l'acte 18 des Gilets jaunes, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, avait reconnu ce matin sur RTL des dysfonctionnements et même un échec. 80 magasins avaient été touchés sur les Champs-Élysées, une vingtaine pillés ou incendiés. Rentré en urgence de son week-end au ski, Emmanuel Macron avait promis des décisions fortes. Et bien voilà, son premier ministre, Édouard Philippe, a annoncé plusieurs mesures ce soir pour tenter d'empêcher que cette situation ne se reproduise.
Les policiers que j'ai croisés sur les Champs-Élysées m'ont dit que le niveau de violence auquel ils avaient été confrontés ce samedi était encore supérieur à ce qu'ils avaient constaté le 1er décembre. Pour répondre à cela, il faut des mesures fortes. C'est celles que j'ai annoncées, c'est celles que nous allons mettre en œuvre. Ça suffit. Les Français n'en peuvent plus. Nous ne pouvons pas laisser des gens dont la seule revendication est la violence dicter leur loi. Et donc nous voulons interdire les manifestations dans les quartiers qui ont été terriblement frappés lorsque nous savons que des casseurs seront sur place, procéder aux dispersions immédiates de tout attroupement, faire en sorte de pouvoir sanctionner plus durement ceux qui accompagnent ces manifestations, quel que soit leur comportement, dès lors qu'elles auront été interdites, faire en sorte qu'ils puissent être sanctionnés plus durement. Bref, là encore, améliorer notre capacité de réponse pour dire aux Français, nous savons que vous n'acceptez pas ça. Le peuple français n'accepte pas ça. Nous voulons y mettre un terme.
Le Premier ministre Édouard Philippe sur le plateau du 20h de France 2. Dans RTL Soir, Claude Guéant a réagi aux annonces du chef du gouvernement. L'ancien ministre de l'Intérieur estime qu'il était déjà possible d'interdire la manifestation. Ce sont des mesures raisonnables, dit-il, mais elles auraient dû être prises plus tôt, selon lui. Celui qui paye le plus lourd tribut après l'échec des forces de l'ordre, c'est le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, qui quitte ses fonctions. Sa gestion du maintien de l'ordre avait été critiquée. Le ministre de l'Intérieur a estimé ce soir qu'il avait été déstabilisé samedi. Des décisions, des instructions lui ont échappé. Il est immédiatement remplacé par le préfet de Nouvelle-Aquitaine, Didier Lallemand, un homme réputé pour sa poigne de fer, Jean-Marc Terrier.
Oui, ce haut fonctionnaire âgé de 63 ans a la réputation ici en Nouvelle-Aquitaine d'être un homme autoritaire et peu conciliant, y compris dans ses propres services en préfecture. Diplômé de l'Institut supérieur de gestion et d'un DSS d'administration, il commence sa carrière en 1982 au service économique d'Épinay-sur-Seine. Depuis, il alterne les postes entre préfecture et ministère. 89, il est nommé conseiller technique de Jean-Michel Ballier, qui à l'époque est secrétaire d'État aux collectivités locales. Retour à la préfectorale en 93 au poste de secrétaire général de la préfecture de la Marne. 4 ans plus tard, il travaille aux côtés de Jean-Pierre Chevènement au ministère de l'Intérieur. Dans les années 2000, plusieurs postes de préfet, l'Aisne, la Saône-et-Loire, avant de retrouver un ministère, celui des Transports et Dominique Perben. 2012, il rejoint Manuel Valls au ministère de l'Intérieur. Il y restera 2 ans pour atterrir ensuite à la Cour des comptes. Le 22 novembre 2017, il prend ses fonctions de préfet de la Nouvelle-Aquitaine. Ces derniers mois, ce sont les dégradations, les violences urbaines, notamment dans le centre-ville de Bordeaux, qui ont concentré l'essentiel de ses décisions.
Un portrait de Didier Lallemand, le nouveau préfet de Paris, par Jean-Marc Terrier pour RTL. Certains d'entre eux faisaient des selfies victorieux sur les Champs-Élysées samedi, mais devant le tribunal correctionnel de Paris, aujourd'hui, ils ont fait profil bas. Alice Moreno, vous avez suivi les audiences pour RTL. Les réquisitions du procureur sont plutôt sévères, pour l'essentiel de la prison ferme.
Effectivement, comme pour ce jeune homme de 23 ans, Clément, dreadlocks coiffé en arrière, il comparaît pour avoir jeté une bouteille de bière en direction des forces de l'ordre. « Je regrette d'embêter votre tribunal pour un truc aussi nul », murmure-t-il dans le box. Mais pas de quoi attendrir le procureur. C'est facile de regretter ici. C'est avant qu'il faut réfléchir, lance-t-il, qualifiant un tel acte d'inadmissible. Il requiert 5 mois de prison ferme assorti d'un mandat de dépôt. Et le procureur garde ainsi le même ton au fil des comparution quand Raphaël, un apiculteur de 33 ans, regrette à son tour d'avoir ramassé, dit-il, des vêtements volés lors des pillages sur les Champs-Élysées. Le procureur l'interpelle. Que diriez-vous si une bande d'imbéciles venait piller votre miellerie? Et il requiert 4 mois de prison ferme.
Alors il faut dire que ces casseurs de l'acte 18 ne sont pas les premiers à avoir affaire à la justice. Depuis la mi-novembre, Alice, il y a eu plus de 8200 personnes qui ont été placées en garde à vue.
Effectivement, 8250 gardes à vue exactement et 1800 condamnations. Mais ce nombre de condamnations pourrait être largement revu à la hausse car dans certains cas, les procédures sont longues. Leur issue pourrait être connue dans plusieurs mois, voire plusieurs années. Le ministère de la Justice précise ainsi que 1800 affaires sont toujours en attente de jugement. Sur les condamnations déjà prononcées, 40% ont donné lieu à des peines d'emprisonnement ferme entre quelques mois et 3 ans. Les peines avec sursis représentent donc le reste 60% des condamnations.
Les précisions d'Alice Moreno au Palais de Justice de Paris pour RTL. Une rencontre privée et très discrète au Vatican. Le cardinal Barbarin est venu présenter sa démission au pape François aujourd'hui après sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'abus sexuels. Le pape pourrait se donner plusieurs semaines avant d'accepter ou non la démission de l'archevêque de Lyon.
RTL Grand Soir
avec Alexandre de Saint-Aignan.
Direction maintenant les Pays-Bas où la terreur a frappé la petite ville d'Utrecht. Aujourd'hui, un homme a ouvert le feu dans un tramway faisant au moins 3 morts avant de prendre la fuite. La police a rapidement déployé des unités d'élite dans le centre-ville pour mettre un terme à sa cavale. Il a finalement été interpellé en début de soirée, Frank Hanson.
Oui, en effet, le maire et le chef de la police d'Utrecht l'ont confirmé. Gökmen Tanis a donc été arrêté après plusieurs heures de chasse à l'homme dans la ville. Ce Turc de 37 ans, déjà condamné pour des faits de viol et de cambriolage, avait été rapidement identifié grâce aux images de vidéosurveillance quand il a ouvert le feu ce matin dans le tramway. Autour de ce quartier populaire du Canal Island, toujours bouclé où la fusillade a éclaté, un hélicoptère survole d'ailleurs encore les lieux. Le tireur aurait été appréhendé à 5 km d'ici, dans un autre district de cette cité néerlandaise. Il n'aurait pas opposé de résistance. Pour l'instant, ses motivations sont encore assez floues. Selon le procureur, la piste terroriste reste envisagée, même s'il peut encore y avoir d'autres raison à ce geste. Plusieurs médias néerlandais évoquent en tout cas un possible règlement de compte familial. Tanis aurait pu vouloir s'en prendre à son ex-compagne. Les investigations se poursuivent, mais le bilan est lourd. 3 morts et plusieurs blessés, toujours en état d'urgence vitale. Le niveau d'alerte en tout cas a été relevé dans tout le pays avec des contrôles aux aéroports. Mais les habitants d'Utrecht ne cachent pas ce soir un vrai soulagement en apprenant l'interpellation de ce tireur.
L'envoyé spécial de RTL aux Pays-Bas, Frank Hanson. En Algérie, Abdelaziz Bouteflika s'accroche à son fauteuil de président. Dans un message aujourd'hui, il confirme qu'il prolongera son 4e mandat au-delà de son terme jusqu'à l'organisation d'un nouveau scrutin dont la date ne sera fixée qu'après un processus de révision de la Constitution. Abdelaziz Bouteflika, âgé de 82 ans, affaibli par les séquelles d'un AVC, il affirme que la conférence nationale qui doit réviser la Constitution ne se tiendra que dans un très proche avenir. Le nord de la France, paralysé à cause du Brexit depuis 2 semaines maintenant. Les douaniers des ports de Calais, Dunkerque, mais aussi d'Eurotunnel ont entamé une grève du zèle. Ils réclament plus de moyens. En fait, les contrôles sont renforcés. Ils sont 10 fois plus nombreux. Les kilomètres de bouchons s'accumulent à la frontière. De quoi excéder les transporteurs routiers qui appellent à leur tour à cesser le travail depuis 20h ce soir en bloquant une partie de la 16. Sébastien Riviera, secrétaire général de la Fédération nationale des transporteurs routiers du Pas-de-Calais.
Aujourd'hui, on estime qu'on n'est pas du tout considéré. On a entre 5 et 10 heures d'attente pour nos poids lourds pour passer au tunnel ou au port. Un véhicule immobilisé, c'est 1 euro la minute. 10 heures d'attente, ça fait 600 euros de pertes sèches pour les entreprises. Et tous les poids lourds sont bloqués. Sur le flux transmanche, il y a des clients qui ne sont pas livrés, effectivement. On a des conducteurs qui ne veulent plus aller vers l'Angleterre compte tenu de ces heures d'attente. Des clients également qui sont livrés en retard. Donc ce sont également des annulations de commandes, tout simplement. Parce que très concrètement, ce sont des actions qui sont mortifères pour nos entreprises. On attend que la situation soit régularisée. On ne peut plus supporter. Ça fait 2 semaines que nos activités sont perturbées. Nous, on ne peut plus être patient et laisser les douaniers et l'État continuer comme ça sans trouver de solution.
Le secrétaire général de la Fédération nationale des transports routiers du Pas-de-Calais avec Antoine Decarne pour RTL. Ils ont ressorti leur maillot bleu pour la première fois depuis le début de l'année. Les joueurs de l'équipe de France de football ont repris l'entraînement tous ensemble aujourd'hui à Clairefontaine. Mbappé, Griezmann, Pogba et les autres vont devoir rapidement retrouver leurs automatismes. Puis à quelques jours des qualifications pour l'Euro 2020, ils vont jouer en Moldavie, ce sera vendredi prochain. Et puis au Stade de France contre l'Islande, ça ce sera dans une semaine, tout rond lundi prochain. Aujourd'hui, c'était les retrouvailles, Nicolas Georgerot.
Avec le traditionnel balai des voitures à la mi-journée au pied du château, pas trop d'excentricité dans les tenues, jeans et blouson en cuir noir pour le buteur d'hier soir contre l'OM, Kylian Mbappé, Paul Pogba en survêtement, N'Golo Kanté n'était pas en retard, arrivé peu avant 7h ce matin. Parmi les plus ravis, Samuel Umtiti.
Ça m'avait manqué de vous voir comme ça.
Le défenseur du FC Barcelone a raté les 2 derniers rassemblements, blessé à un genou. Il a confié quelques mots sur le site internet de la Fédération Française de Football.
J'ai beaucoup travaillé, on va dire, pour revenir. Maintenant, je suis là et voilà. j'ai bien profité des entraînements, des matchs et voilà, toujours dans la joie et la bonne humeur.
La Coupe du Monde derrière eux, l'Euro 2020 devant, deux matchs de qualification en trois jours. Didier Deschamps ne va pas bouleverser son schéma habituel.
Aujourd'hui et demain, ça va être de la récup et mercredi, on est à J-2. Donc je suis pas là pour changer aussi. Je sais que vous aimez bien en général les nouveautés, mais l'important c'est que l'équipe de France continue de s'appuyer sur ce qui a fait notre force. On sait à quoi s'attendre.
Et c'est très largement abordable pour des champions du monde, débuter face à la Moldavie, l'une des 30 plus faibles nations du foot mondial.
Merci Nicolas Georgerot. À Clairefontaine pour RTL, il est 22h11 sur RTL. Avant de refermer ce journal, comme promis, on jette un œil aux prévisions météo pour demain avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy.
Bonsoir. Alors demain, enfin, une belle amélioration. Pas pour tout le monde, c'est vrai qu'il y a encore quelques exceptions. Sur les Pyrénées, par exemple, ça restera gris et pluvieux, avec de la neige à 800 mètres. Quelques ondées orageuses possibles également en Corse. Et puis le long des côtes de la Manche, là ce sera bien nuageux avec un risque d'averse. Mais partout ailleurs, après dissipation des brouillards de la matinée, on retrouvera un ciel globalement lumineux et de belles éclaircies. Côté température, demain matin par contre il fera froid, notamment sur le nord-est et le centre-est. -1 à Nancy, 1 degré à Clermont-Ferrand, 2 à Paris. Et les températures repartiront à la hausse l'après-midi. On retrouvera enfin des températures de saison de 11 à 14 au nord et de 14 à 17 au sud.
Merci beaucoup Peggy Broche.